Merci Pierre Pillet, bonne journée. Bonjour et merci d'écouter le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous être fidèles chaque semaine avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein avec moi en studio. Dans un instant, le duel et le retour sur quelques-uns des temps forts de la semaine. Et puis le débat du week-end, puisqu'il faut s'y préparer. Quels sont les grands enjeux des élections régionales? Le scrutin aura lieu, vous le savez, les 20 et 27 juin prochains. Autre manière de présenter le calendrier, 18 mois après la crise des Gilets jaunes et à un an maintenant de l'élection présidentielle. Le président de la République d'ailleurs, Emmanuel Macron, qui décrit sa France dans le magazine Zadig, nous en parlions ici même samedi dernier, sa géographie personnelle sensible et ses déplacements des derniers jours ont pour vocation, dit le site de l'Élysée, de mettre en avant la richesse de nos territoires. Je mets le mot entre guillemets, il est important, région, territoire, une carte sensible de la France. Et la géographie est pourtant éminemment politique. Nous voulions en parler avec l'un de nos grands géographes. Il est directeur de la chaire Intelligence spatiale de l'Université Polytechnique Hauts-de-France. Plusieurs de ses ouvrages font référence. Le dernier, L'humanité, un commencement, est paru récemment chez Odile Jacob. Jacques Lévy nous rejoindra dans une vingtaine de minutes.
France Inter, le grand face-à-face. Ali Badou.
Le duel avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va démarrer notamment ça.
D'abord, il faut relativiser et ne rien banaliser. Quand je dis relativiser, c'est pas grave de recevoir une gifle quand on va vers une foule et pour saluer, c'est l'imprévu, ça peut arriver à tout moment. Je pense que ça ne dit pas quelque chose de plus profond qu'un acte isolé, d'abord. Et il y a eu des moments de très forte tension dans notre pays, de violence, au moment de la crise des Gilets jaunes. La société n'est pas dans cet état-là aujourd'hui. Donc je pense qu'il ne faut pas faire dire à cet acte autre chose qu'un acte isolé du fait qu'il y a des gens aujourd'hui qui, dans la société, peuvent être violents à un moment donné ou à un autre.
Le président de la République qui était de nouveau interrogé, il minimisait l'événement, Natacha Polony, c'est assez étonnant. La façon dont c'est évidemment un acte qu'on peut considérer gravissime, qui est éminemment symbolique, qui interroge la nature et la relation des citoyens ou d'un citoyen avec le chef de l'État. Et pourtant, Emmanuel Macron essaye de, non pas peut-être banaliser, mais en tout cas d'en diminuer la charge symbolique. Est-ce que vous comprenez pourquoi ?
Oui, ça, je pense que c'est assez évident que Emmanuel Macron doit avant tout, dans une stratégie qui est une stratégie de pré-présidentielle, laisser entendre que cet acte, en effet, ne représente pas un courant d'opinion et resterait la marque de quelqu'un qui aurait dérivé. En revanche, c'est à la fois compréhensible d'un point de vue de communication politique de la part d'Emmanuel Macron, mais c'est aussi quelque chose qui n'est pas faux. C'est-à-dire qu'il y a de la part de cet individu un acte qui, en effet, est un acte que la majorité des Français n'accomplirait pas du tout. C'est d'ailleurs assez frappant de regarder les réactions. De très nombreuses personnes sur les réseaux sociaux se sont réjouies, ont expliqué « mais moi aussi j'aurais eu envie de le faire », etc. Mais ils ne le font pas. Et en fait, ils ne l'auraient sans doute pas fait. C'est-à-dire que c'est toute la différence entre le fantasme et l'acte. Ce qui est une violence symbolique très forte, c'est le fait de passer à l'acte, justement, et donc de traduire cette colère qu'on sent dans le pays. La colère, elle existe chez beaucoup de gens, mais tout à coup, de ne plus avoir les limites qui sont le fondement même de la vie démocratique. La vie démocratique ne peut pas exister s'il n'y a pas, de la part de l'ensemble des citoyens, une retenue et l'idée que les pulsions, on ne se laisse pas aller à ces pulsions. Le problème est qu'aujourd'hui, nous sentons bien que nous sommes dans un moment de déstructuration de la société où l'ensemble de ces pulsions s'exprime de plus en plus, où se laisser aller, ce dépassement des limites est de plus en plus généralisé. Cet acte en est une marque supplémentaire. Le problème est que sans doute les politiques ont été les premiers à, en fait, franchir certaines limites et à transformer la politique en spectacle.
Gilles Finkelstein.
Oui, il est difficile de ne pas revenir sur cet événement parce que c'est un vrai événement et il est difficile d'y revenir parce que beaucoup a déjà été dit. Ce laisser-aller que vient d'évoquer Natacha, il est condamnable parce que c'est le président de la République et qu'il y a une dimension symbolique qui est attachée à sa fonction. Mais je suis désolé du truisme, mais il est condamnable en soi. C'est-à-dire, on ne donne pas des gifles. On ne donne pas des gifles à ses enfants, on ne donne pas une gifle à sa femme. Et donc, la condamnation, je trouve, elle doit faire réfléchir aussi au-delà. Deuxièmement, c'est un incident de l'ère numérique.
Pourquoi ?
On a tout vu grâce au numérique. Les journalistes étaient peu présents, et même je ne suis pas sûr qu'ils étaient présents. Et donc, c'est par la multiplication des vidéos des citoyens que l'on a pu reconstituer cet événement. La question est de savoir si rien ne serait arrivé sans le numérique. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un lien entre la violence des réseaux et le passage à l'acte? Jusqu'à présent, les études qui étaient faites montraient que ce n'était pas le cas. Et maintenant, on a vu, maintenant, de semaine après semaine, au-delà du cas du président de la République, une connexion entre ce qui se passait sur les réseaux sociaux et ce qui se passait après dans le monde réel. Deuxième remarque, c'est un incident qui s'inscrit dans un contexte sociétal qui est celui d'une forme de violence politique. On l'a vu aux États-Unis avec le Capitole, on l'a vu en France avec le président de la République, mais on l'a vu au-delà avec les permanences des élus, on l'a vu avec les journalistes. Il y a une montée de la violence politique avec une banalisation de la violence verbale sur les réseaux sociaux et une légitimité de la violence physique qu'on avait vue au moment des Gilets jaunes. Et c'est ce en quoi ce geste fait sens également. Vous vous souvenez que
mais il y a fait sens. Damien Tarel, on a quand même trouvé chez lui Mein Kampf, des armes. C'est pas un citoyen ordinaire ou
non, ce n'est pas un citoyen ordinaire, mais le fait que il n'y ait qu'une moitié des Français qui désapprouvent totalement l'usage de la violence pour faire valoir ses revendications est un fait de société. Et enfin, je termine par là, c'est un incident qui arrive dans un moment politique. Vous avez parlé de Zadig, le président de la République, après les mots, à les images, il va sur le terrain. Sa crainte, vraisemblablement, est que cette gifle colore l'ensemble de son déplacement, et elle intervient dans un moment dans lequel il y a un regain de popularité du président de la République, et sa crainte aussi, et c'est pour ça qu'il cherche à minimiser et à banaliser cet événement, c'est que ça vienne réactiver ce qui existe par ailleurs, qui est une intensité de rejet qui est forte dans une partie de la population. Je ne sais pas si vous avez remarqué la formule qu'a utilisée Damien Tarel lors de son jugement. Il a parlé du dégoût. Or, lorsque nous avons interrogé les Français sur les sentiments qu'ils éprouvaient vis-à-vis d'un certain nombre de personnalités politiques, ce qui ressortait pour Emmanuel Macron était une intensité très forte de mots négatifs, dont le même mot, le dégoût, auquel s'ajoutait la honte, la colère et le désespoir. Et c'est cette réactivation que craint aussi le président de la République.
Natacha.
Oui, premier point, pour ce qui est en effet de la violence que subissent les individus en général, en effet, cette gifle est certes symboliquement extrêmement forte, mais il y a des représentants, des incarnations de l'autorité ou des institutions qui s'en prennent tous les jours. C'est-à-dire que cette gifle est un franchissement des limites, mais le franchissement des limites, il est le fait de ceux qui frappent des professeurs, de ceux qui frappent des policiers, de ceux qui frappent des médecins, des infirmières, des soignants dans les hôpitaux, des pompiers qui les caillassent. Et c'est vrai que beaucoup de Français vont avoir l'impression qu'on en fait beaucoup sur cette gifle, alors que eux subissent en permanence cette violence, à laquelle s'ajoute une violence sociale qui, là aussi, est extrêmement puissante, c'est-à-dire que le système économique et social, dans sa forme destructrice, inflige une violence qui n'est pas du même ordre et qui n'a pas ensuite à donner lieu à une violence physique. C'est d'ailleurs un vieux problème politique. La violence politique, la violence est-elle légitimée par la violence du système ? En démocratie, la réponse est non.
Damien Tarel a admis à l'audience avoir frappé le président de manière impulsive.
Oui, bien sûr, et c'est pour ça que je disais que c'était une libération des pulsions, et que je le répète, ça relève d'une déstructuration de la société. Pourquoi ? Justement parce que ça signifie que nous sommes confrontés à des problèmes qui ne devraient pas exister en démocratie. Que des rois aient été haïs, conspués, qu'il y ait eu des crachats sur le passage des cercueils, c'est une chose. Mais nous sommes en démocratie face à un président qui est censé incarner la volonté du peuple. Et tout le problème est qu'on voit bien à quel point c'est cela qui ne fonctionne plus tout à fait et qui donne lieu à ce que Gilles appelait le dégoût. En effet, c'est un sentiment qu'on voit s'exprimer assez souvent. C'est profondément dangereux et je ne pense que ce n'est pas réductible à une violence d'extrême droite. Oui, on a trouvé Mein Kampf chez le camarade de Damien Tarel. Oui, il y a une espèce de substrat d'extrême droite, c'est vrai.
Il y a le monarchisme avec le
voilà,
Montjoie-Saint-Denis.
Oui, même si c'est surtout le fait de quelqu'un qui est fasciné par le Moyen-Âge, ça ne signifie pas qu'il ait une idéologie structurée monarchiste. En fait, le problème, c'est que justement que ce n'est pas une idéologie politique structurée, mais quelque chose de diffus et qui est en train de sortir du champ démocratique de la raison.
Gilles.
Oui, il est probable que ce soit surtout une déstructuration idéologique et personnelle assez profonde. Il y a la question du passage à l'acte, et il y a l'autre question qui est de savoir, sans le passage à l'acte, mais quelle est la réaction qu'ont eu les Français en voyant cet événement. Et les condamnations ont été très importantes, et je pense qu'énormément de Français ont été choqués, mais j'ai été frappé dans l'Institut de sondage Odoxa a publié une enquête hier, dans laquelle, sur cet événement, il regardait les émoticônes qui étaient associés sur les réseaux sociaux. Et quand vous regardez, il y a quand même beaucoup de sourires et d'émoticônes qui ne traduisent pas seulement une réprobation.
Ça, c'est étonnant. Et ça en dit long. Et on peut donc, non mais je fais état de ma stupeur, on peut aujourd'hui, dans les études d'opinion, étudier les émoticônes, les emojis qui accompagnent les commentaires sur les réseaux en ligne.
Oui.
C'est magique.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Est-ce que nous voulons que la nation française, par rapport aux grandes autres nations, l'Allemagne, les États-Unis, continue, comme c'est le cas depuis des années, à s'appauvrir relativement, c'est-à-dire qu'elle gagne un peu moins de richesse, un peu moins de niveau de vie, ou est-ce que nous voulons au contraire que vos enfants, mes enfants, aient un meilleur niveau de vie que nous? C'est ça l'enjeu. Et pour ça, il y a une seule réponse, c'est que nous augmentions notre volume global de travail.
C'était Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui ce mercredi reprenait le sujet explosif des retraites qui était au cœur de l'actualité avant que le Covid ne débarque dans nos vies. Est-ce que ce sujet a vocation à revenir dans le débat public avant la fin du quinquennat d'Emmanuel Macron? Gilles, c'est assez curieux de voir le ministre de l'économie assurer que le problème financier restait entier alors que nous sommes malgré tout encore à l'heure du quoi qu'il en coûte et que les sommes mise en œuvre pour traverser la crise et la pandémie semble considérablement supérieure à ce qu'il faudrait pour ramener les déficits à l'équilibre.
Je trouve bien que le ministre des Finances évoque explicitement cette question parce que depuis plusieurs jours, la forme de ce débat était un peu trop contournée. On le disait sans le dire, on le laissait entendre, le président de la République organisait ce qui ressemble quand même à une fausse consultation puisqu'il considérait justement que sa tournée sur le terrain permettrait de se faire une idée sur la réforme des retraites. Il entretenait un faux suspense en liant cette réforme et les décisions difficiles qu'il devrait prendre à sa candidature. Donc je trouve la forme était un peu déplaisante et le moment, honnêtement, me semble peu approprié. Ce n'était pas dans le mandat du président de la République, puisqu'il a même affirmé exactement le contraire, non pas sur la réforme systémique, mais sur le relèvement de l'âge à la retraite. On sort de la pandémie, il y a des déficits partout. Pourquoi s'attaquer spécifiquement à celui-là et pas aux autres? Et tous les partenaires sociaux, vous l'avez remarqué, y compris la CFDT, y compris le MEDEF, y sont opposés. En réalité, ce dossier qui est souvent un dossier très technique et très complexe, en l'espèce, est un dossier exclusivement politique et extrêmement simple. On peut débattre du bilan de la première partie du quinquennat d'Emmanuel Macron, savoir s'il a fait beaucoup de réformes ou pas, si ces réformes sont bonnes ou pas. En revanche, ce qui est certain, c'est que il garde une image réformatrice, on l'a vu dans la première vague du panel électoral que nous avons lancé. Les Français continuent de considérer qu'Emmanuel Macron, selon la formule, veut vraiment changer les choses. Mais il lui manque des mesures réformatrices qui viennent illustrer cette image. Il a besoin, en cette fin de quinquennat, en tout cas il considère qu'il a besoin de réactiver cette image-là. Il y avait la réforme de la fonction publique qui aurait pu remplir cet office, et c'est à ça Que doit répondre la réforme des retraites? J'ajoute un tout dernier mot, c'est pas seulement l'image réformatrice, c'est plus politique encore, dans la mesure où cette réforme, si elle se limite à une mesure d'âge, elle a une cible, c'est toujours la même, c'est l'électorat âgé des Républicains qui, eux, sont massivement favorables à ce que les actifs travaillent davantage, et ça clive avec Marine Le Pen, dont on oublie qu'elle est favorable au retour à la retraite à 60 ans.
Natacha Polony.
Oui, je crois que Gilles vient fort bien de résumer le problème politique et d'esquisser le problème, j'allais dire idéologique, à savoir que ce sont ceux qui ont refusé mordicus toutes les réformes des retraites qui maintenant trouvent ça formidable quand ça ne les touche plus. Mais ça, c'est une parenthèse. Mais en effet, c'est un sujet éminemment politique. Il s'agit d'expliquer qu'Emmanuel Macron peut réformer. Et c'est une vision du problème qui, mais ça on l'a déjà dit lors des débats sur au moment où la réforme était lancée, c'est une vision du problème qui en fait occulte volontairement des pans entiers du raisonnement. L'extrait que vous avez passé à l'instant avec Bruno Le Maire disant qu'il faut que nous augmentions notre volume global de travail,
oui,
devrait tout de même nous inciter à réfléchir, en effet, à ce que ça signifie augmenter notre volume global de travail. C'est-à-dire que ce qui empêche que les retraites soient à l'équilibre, c'est le chômage de masse. C'est le fait que nous avons un problème, en effet, de désindustrialisation du pays. Ce n'est pas le fait d'obliger les gens à travailler plus longtemps, ou surtout, puisqu'en fait la conséquence ce sera ça, de rogner sur les pensions de retraite, qui va permettre de sortir de là. Or, le dernier rapport du COR le montre, ce qui va s'enclencher à partir de maintenant, c'est une baisse des pensions de retraite, c'est-à-dire un appauvrissement des retraités. Il ne semble donc pas que d'amplifier ce phénomène soit une véritable réponse.
Mais ça,
de
fait, effectivement, voilà, le Conseil d'orientation des retraites mardi. Mais ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que cette réforme ou ce système universel qu'avait mis en avant le président de la République, ce système a été adopté par l'Assemblée nationale. Enfin, et ils ont eu recours au 49.3. C'est curieux. En mars 2020, c'était donc un projet qui a été stoppé net par la pandémie lui aussi. Mais je ne comprends pas, en fait, est-ce que s'il fallait reprendre la machine là où elle s'était arrêtée?
Ah, ça aurait été une option. Ça aurait été une option. Manifestement, le président de la République a intégré les difficultés, à la fois les difficultés techniques à mettre en place ce système et les difficultés de perception de l'opinion. Tout ça, ça veut dire quoi, en fait?
Il a été adopté en première lecture.
Il a été adopté en première lecture, mais il ne vous a pas échappé qu'un texte adopté en première lecture doit encore aller au Sénat, revenir à l'Assemblée nationale, que le travail parlementaire n'était pas achevé. Tout ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire du tout que la question des retraites ne se pose pas. Ça veut dire, je crois, que c'est un excellent débat pour la campagne présidentielle.
Natacha, un mot ?
En effet, si nous pouvions enfin avoir ce débat de manière apaisée et de la part de politiques qui, cette fois-ci, s'engageraient plutôt que de faire une fois au pouvoir le contraire de ce qu'ils avaient promis pour séduire tel ou tel électorat, je pense que nous aurions progressé.
Avant le débat, le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Aujourd'hui, je ne suis pas candidat parce que je ne suis pas candidat à la multiplication des candidatures. Il y en a déjà beaucoup trop. En revanche, je suis disposé à travailler à une candidature unique de la gauche et je suis disponible pour cette perspective. Comme je le disais, le pays est à droite sur le régalien et à gauche sur l'économique et sociale. Il va bien falloir qu'on ait une sorte de politique mixte. Si ce n'est pas le cas, le Bloc populaire s'éloignera, se jettera dans les bras de la famille Le Pen. Voilà ce qui nous menace.
Arnaud Montebourg, aujourd'hui entrepreneur, ancien ministre de l'économie, créateur du mouvement citoyen L'Engagement, qui était l'invité de France Inter jeudi matin chez Nico et Léa, et il donc annonçait sa non-candidature à l'élection présidentielle, et je ne sais pas comment le présenter. C'est une non-déclaration, Natacha?
Il y a deux choses dans les propos d'Arnaud Montebourg, dans la tribune qu'il a publiée dans Le Monde. Il y a la question purement politique. En effet, Arnaud Montebourg n'a pas les troupes n'a pas l'argent. Or, de nos jours, pour se présenter à l'élection présidentielle, si l'on est un tant soit peu lucide, il faut des conditions, et ces conditions sont assez lourdes, c'est-à-dire que si on n'a personne derrière, pas d'appareil, c'est extrêmement compliqué. Et ceux qui citent Emmanuel Macron en expliquant qu'il a surgi de nulle part, oublient que non, il n'a absolument pas surgi de nulle part, et que on a la possibilité de créer un appareil quand on a derrière soi tout un réseau en fait de soutien. Donc Arnaud Montebourg dresse un bilan, il n'a pas cela. Pour autant, la lecture qu'il fait de la situation politique est tout à fait intéressante. Et elle est, je pense, tout à fait justifiée. C'est-à-dire que, alors il le résume d'une façon qu'on peut contester. La France serait à droite sur le régalien, à gauche sur le social et l'économique. Nous avons eu ce débat il y a quelque temps avec Gilles sur la question de la supposée droitisation de la France. Et de fait, sur les questions économiques et sociales, il y a une demande de protection, c'est ça qu'analyse Arnaud Montebourg, et sur le régalien, il y a aussi une demande de protection. C'est-à-dire que ce que met en avant Montebourg, c'est la demande de reprise en main de leur destin par les citoyens, ce qu'on peut appeler la souveraineté, même si le mot n'est pas compris, et de présence de l'État pour réguler et protéger. Or, il n'y a pas d'offre politique qui englobe
mais
la totalité des dimensions
assez
de ce
bien
problème.
La France d'aujourd'hui.
Non, mais ça décrit tout à fait la France d'aujourd'hui, mais ça décrit aussi le fait qu'il n'y a pas d'offre politique qui réponde à ça, qui couvre ce prisme-là.
Gilles Finkelstein.
Arnaud Montebourg vient de réaliser ce qu'on appelle en communication une vraie séquence médiatique. Son mérite est de ne pas l'avoir fait simplement pour avoir une présence médiatique, mais parce qu'il y a en l'espèce, du contenu politique. Il dit des choses claires sur Jean-Luc Mélenchon, problème pour la gauche, il dit des choses claires sur la gauche et sur cette difficulté sociologique avec les classes moyennes, et il propose...
Enfin, il dit qu'il a voté pour Jean-Luc Mélenchon en 2017, alors qu'il faisait campagne pour Benoît Hamon.
Je ne dis pas qu'il n'y a pas des contradictions, et je vais venir, mais il dit des choses claires, il propose... non pas des mesures, mais une orientation, ce qu'il appelle l'unification du bloc populaire autour d'une force républicaine, et il esquisse ce que serait cette force républicaine, hein, le travail plutôt que la redistribution, l'industrialisation et notamment le nucléaire, la souveraineté, voire une forme de souverainisme, l'immigration contrôlée, et un État moins bureaucratique. Bon, tout ça, je trouve, n'est pas inintéressant. La question est de savoir, est-ce qu'il y a un débouché, ça me semble totalement improbable, pour les raisons qu'a évoquées Natacha, qui tiennent à lui, qui tiennent aussi au fait que je ne vois pas comment Jean-Luc Mélenchon ne sera pas candidat à cette élection, mais aussi, pour le coup, et c'est là je trouve qu'il y a une sorte de confusion, je ne comprends pas en réalité quelle est la cible électorale. Mais ce concept du bloc populaire opposé à un bloc bourgeois et à un bloc réactionnaire, je trouve que c'est assez difficile d'en comprendre réellement les contours. Je termine par un dernier point. Si le débouché me semble improbable, le débat mériterait d'aller un peu plus loin. Et là, Arnaud Montebourg pourrait jouer un rôle utile. Quand il dit une immigration contrôlée, qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Est-ce que il considère qu'il y a que les critères d'entrée, les différents modes d'entrée sur le territoire sont aujourd'hui trop souples et qu'il faut les revoir? Est-ce que ce sont les conditions d'expulsion de ceux qui n'ont pas eu, par exemple, le droit d'asile? Donc là, il faut qu'il en dise davantage. Sur le nucléaire, quel mix énergétique, quel rapport entre le nucléaire et les énergies renouvelables? Donc qu'il aille plus loin sur le fond, ça serait un service pour le débat.
D'un mot sur le fond, en effet. Ensuite, ça mérite d'être creusé et d'être précisé dans des mesures. En revanche, vous demandez quelle est la cible électorale, mais la majorité des citoyens. Et c'est bien ça ce qu'il vise. Quand il explique qu'il veut réunir, en gros, les classes populaires, les classes moyennes, ceux qui produisent, c'est bien de cela qu'il s'agit, c'est potentiellement majoritaire, sans offre.
Juste une phrase, quand il dit le bloc populaire, et qu'il y a les déclassés, les déracinés, mais aussi la bourgeoisie d'intérêt général, en quoi c'est le bloc populaire, franchement
La bourgeoisie qui croit encore qu'il ne faille pas que les élites fassent sécession, c'est assez simple, en fait.